Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Liv.
Salut Barthélémy.
Écoute, je suis vraiment ravi de faire cette interview. Je pense que j'ai rarement pris autant de plaisir à préparer une interview parce que, comme je te le disais, ta vie est très documentée. J'ai l'impression que tu as eu de multiples vies. On aura vraiment l'occasion d'en parler. Et moi, qui suis un passionné de montagne, qui est une maman qui m'est emmené tous les étés faire des randonnées, faire des 3000, des 4000 dès mon plus jeune âge. Franchement, j'ai passé un excellent moment. Surtout que tu produis du super contenu et du coup j'espère qu'on aura l'occasion de discuter de tout ça. Juste avant, comme on est un petit peu dans une période particulière et que nous sommes à distance à cause du confinement, est-ce que tout va bien de ton côté et comment est-ce que tu vis ce confinement?
Oui, effectivement, on traverse vraiment une période très très particulière, pas toujours facile, mais en ce qui me concerne, tout va bien. J'ai la chance d'habiter quand même en montagne, donc avec une belle vue et de la possibilité de sortir de la maison et de faire quelques petites marches, ou en tout cas de profiter du jardin et de l'alentour, des alentours proches. Et puis, comme tout sportif et sportive, on se maintient, on s'entraîne avec de façon différente, on explore d'autres choses. Donc c'est aussi une période qui est intéressante. C'est une période où on est un peu plus au ralenti. Mais c'est une période qui est intéressante et qui va apporter des choses.
D'accord, ok, très bien. Écoute, en tout cas, ça fait c'est important de le savoir et que tu es en sécurité et que tu arrives quand même à t'occuper. Pour commencer, je te disais la question traditionnelle sur le podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport? Allô, Liv, tu m'entends?
Oui, ça vient de revenir. On a eu deux grosses coupures là. On a eu deux grosses coupures. Mais du coup, j'ai juste entendu la question traditionnelle et puis ça a coupé. Donc, je savais pas si je devais répondre ou pas parce que je savais pas si tu avais pu dire toute la phrase ou pas.
Je vais la
D'accord.
recommencer si tu veux, comme ça te lancera. Effectivement, on a un
Oui.
petit bug de son pour commencer. C'est pas idéal, mais on va dire que
C'est
ça
pas
va.
grave.
Normalement, ça va bien se passer. Écoute, en tout cas, je suis content d'apprendre que tu es en sécurité et que tu arrives quand même à t'occuper dans cette situation un petit peu délicate. Comme tu le sais, sur le podcast, la question traditionnelle, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Alors mon premier souvenir de sport c'est le ski, c'est je pense le sport qui me vient le premier à l'esprit. J'ai commencé à skier très jeune, alors je m'en souviens pas, j'ai juste vu des photos et mes parents m'ont raconté à 2 ans j'étais déjà sur des skis, mais les souvenirs que j'ai c'est quand même plus enfant, aller skier un peu plus tard avec mon papa, et puis très rapidement avec mes cousins parce que nos parents nous faisaient confiance et qu'on pouvait parcourir le domaine skiable des Arcs où j'ai vécu sans les parents. Et ça, c'est mes souvenirs de sport parce que c'est aussi des souvenirs de liberté.
D'accord, ok. Et tu avais des parents sportifs ou des parents qui étaient dans le domaine, qui travaillaient un petit peu dans l'écosystème du sport ou de la montagne?
Non, mes parents travaillaient avec le tourisme et avec des commerces, mais par contre, ils étaient vraiment passionnés et amoureux de la montagne, sans en faire quelque chose de tourné vers la performance. C'était plutôt une passion contemplative et une passion. Il faut préserver la montagne, c'est un endroit qui est magique, et je pense que c'est vraiment ça qu'ils m'ont transmis. Mais effectivement, ils skiaient tous les deux, ils marchaient tous les deux en montagne, donc ils m'ont aussi emmené skier et marcher, et c'est là que j'ai commencé à aimer ça.
D'accord, ok, très bien. Et à partir de quel âge tu as commencé à prendre un petit peu goût à la compétition et peut-être on va dire à l'univers de la performance?
On va dire que en tant que petite fille, j'étais pas du tout tournée sur le sport. J'aimais bien skier, mais après c'était pas ce que je faisais le plus. Et puis arrivée au collège, j'ai découvert un peu plus de sport. J'ai découvert la compétition en UNSS avec les crosses, et c'est aussi là que j'ai commencé à faire de la montagne, à demander à mon papa qui m'emmène à faire du ski de randonnée, ce qui est pas vraiment habituel pour une petite fille de 10 ou 11 ans avec du matériel pas du tout adapté.
Effectivement.
Mais moi, j'avais envie de découvrir ça. Je le voyais partir les week-ends et j'avais envie de découvrir ça. Et en faisant de la montagne, en faisant du ski de randonnée, j'ai commencé un peu à lire les magazines qui traînaient à la maison. Et puis j'ai vu qu'il y avait de l'escalade. Ça existait l'escalade. Et j'ai demandé à mes parents de m'inscrire à un club, mais j'avais déjà 14 ans. quand j'ai vu que l'escalade existait, que ça avait l'air chouette et que j'avais envie de faire ça. Et mes débuts en compétition sont faits à partir de l'âge de 14 ans, comme dans tout club. On fait les championnats départementaux, régionaux, académiques et ensuite les nationaux, les championnats de France.
Ok, et du coup, tu t'es tout de suite pris de passion pour l'escalade. Est-ce que tu as eu une progression fulgurante, du coup, j'imagine?
Oui, alors c'est vrai que au début, on a commencé à grimper sur le mur du gymnase du collège. Et puis, au bout de quelques semaines, j'ai eu la chance que le guide qui avait monté le petit club d'escalade nous emmène grimper dans les calanques. Et là, je suis vraiment tombée amoureuse de sport parce qu'il faut imaginer, on arrive de Savoie. On se trouve à côté de la mer, on a du calcaire partout, du calcaire blanc vraiment magnifique, avec des voies de tous les côtés qui sont très belles, qui donnent envie d'être grimpée. Et là, vraiment, je suis tombée amoureuse de l'escalade et je me suis dit, mais c'est ça que je vais faire, c'est ça que j'aime. Et je pense que je suis rentrée de ce stage des vacances de la Toussaint avec vraiment une grosse envie, une grosse motivation. Et quand les premières compétitions sont arrivées au cours de l'hiver, donc toutes les compétitions d'escalade se font sur murs artificiels, et principalement en hiver, j'ai commencé à... la première compétition, on sait pas trop, on est un peu timide, on a des doutes, on connaît pas les autres, on est impressionné, on est dans un nouvel environnement, il y a plein de choses qui se passent, mais très rapidement, en fait, j'ai déjà bien grimpé, donc j'ai eu des bons résultats, j'ai gagné les championnats de Savoie, je m'y attendais pas du tout, j'ai gagné les championnats académiques, je m'y attendais pas du tout, et ainsi de suite, et jusqu'au championnat de France, en fait, à l'âge de 14-15 ans, où je termine troisième. Donc, je fais mon premier podium au championnat de France après quelques mois seulement d'escalade. Et surtout, après avoir fait le Mont Blanc. En fait, l'avant-veille et la veille, j'étais montée au Mont Blanc avec mon papa. C'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. J'avais insisté tout l'été pour pouvoir faire cette compétition. J'ai insisté tout l'été pour pouvoir faire ce Mont Blanc avec lui. Il travaillait beaucoup et c'est seulement le dernier week-end d'août qu'il a pu m'emmener. Et derrière, on avait les championnats de France jeunes qui étaient là. Et j'avoue que je suis arrivée un peu fatiguée sur ces championnats de France et je m'attendais pas à faire un podium.
Ok, génial. N'empêche, quelle aventure de faire le Mont Blanc déjà aussi jeune. Et je sais pas si c'est si commun finalement pour les enfants de la montagne d'aller grimper le Mont Blanc entre 14 et 15 ans. Bah, en tout cas, moi, j'aurais bien aimé le faire à cet âge-là, c'est sûr. Et t'as pris goût à la compétition? Est-ce que c'était quelque chose de naturel pour toi?
Je pense qu'au début, c'était pas très naturel parce que j'étais vraiment timide, j'étais pas forcément à l'aise avec beaucoup de monde, j'étais pas forcément à l'aise avec aussi le regard de l'autre, le jugement en fait, parce que quand on grimpe, on est jugé par des juges, on est observé par tout un public, et ce sont des choses qui m'étaient pas forcément naturelles, qui m'étaient pas forcément faciles. En revanche, me concentrer sur l'action, me concentrer sur le mouvement à faire, me concentrer sur réussir la voie, me dépasser moi-même. Je pense que c'est quelque chose que j'ai assez naturellement et c'est ça qui m'a permis de réussir en compétition. C'était vraiment de tout recentrer, de tout focaliser sur ma propre performance, mon propre dépassement, en oubliant tout le reste autour qui peut être parfois dur à gérer. Et j'ai pris goût à la compétition en cherchant vraiment à me dire, il y a une voie un quart de finale, une voie de demi-finale, une voie de finale. Et ben mon objectif c'est d'aller jusqu'en haut de la voie de finale. Et c'est vraiment ça qui m'a motivée, qui m'a attirée et qui a été mon moteur.
Ah, donc finalement plus le dépassement de soi que la compétition finalement avec les autres concurrents, j'ai l'impression.
Ah oui, complètement. En fait, parfois on peut entendre mon objectif c'est de battre un tel ou mon objectif c'est de battre une telle. Je pense que c'est pas du tout quelque chose qui est jamais sorti de ma bouche ou que j'ai jamais considéré ou pris en compte. En fait, pour moi, ce qui était vraiment important, c'était moi aujourd'hui, je suis en forme, je peux réussir cette voie de finale. Et ben, je vais tout mettre en œuvre pour la réussir. Et c'est ma propre performance qui est la plus importante. Et si les autres sont plus fortes que moi aujourd'hui, elles vont être devant moi et c'est pas un problème. Et je vais m'entraîner plus dur pour être plus forte pour les prochaines compétitions.
D'accord, ok. Et j'ai une petite question un peu sur quid de l'état de l'escalade à l'époque. On voit que c'est un sport qui s'est vraiment démocratisé. En tout cas, moi, j'ai, de mon impression sur les 10-15 dernières années, notamment avec l'ouverture de beaucoup de salles de blocs, on peut le voir dans les zones urbaines, avec des grosses chaînes qui ouvrent des salles très régulièrement. Et puis l'arrivée aussi, normalement, en 2020, mais bon, ça sera décalé en 2021, de l'escalade aux Jeux Olympiques. Quel était l'état de l'escalade à l'époque? Est-ce que c'était déjà démocratisé? Est-ce que c'était vraiment réservé à une catégorie d'initiés, de gens qui étaient passionnés de la montagne? Quel souvenir, toi, enfin, avec le recul, quel souvenir tu en as?
Oui, effectivement, je pense que en 20 ans, l'escalade a connu vraiment une explosion. Les compétitions qu'on a connues dans les années 95 jusqu'à 2005, on va dire, étaient complètement différentes de ce que les jeunes de maintenant connaissent en Coupe du Monde et même à un niveau moindre. Je pense que l'escalade a connu un boom parce que c'est une belle activité, c'est une activité qui va plaire à tout un public. En fait, c'est aussi pour certains une forme de fitness un peu plus ludique et puis le fait que ça qu'on puisse développer l'escalade en salle dans des grandes villes, ça fait que ça la rend comme un sport pas du tout dangereux, en tout cas si on respecte les règles de base, hein, de bien faire son nœud, de bien mettre son harnais et d'avoir le matériel adapté et un assureur qui s'est assuré. Et ouais. Et donc pour revenir à ça, je pense que l'escalade a énormément évolué, les murs ont également énormément évolué. Quand on a commencé, on était sur des murs verticaux, les prises faisaient mal aux doigts, elles étaient pas du tout ergonomiques, c'était quand même assez archaïque, alors que maintenant on a des murs magnifiques. Et aussi les structures, on avait à l'époque on avait une équipe de France, on avait un stage national par an. Maintenant il y a quand même des pôles espoirs, il y a une structure, on connaît beaucoup plus sur l'entraînement, c'est beaucoup moins empirique. Nous on tâtonnait, c'était un peu empirique, on essayait des choses, on voyait que ça marchait, on en essayait d'autres, ça marchait pas, c'était encore assez empirique. Et maintenant on sait s'entraîner correctement et on sait ce qui marche et ce qui est efficace.
D'accord. Et toi, tu as jamais été tenté, j'ai l'impression que dans ta carrière, il y a eu beaucoup de générosité, beaucoup la volonté de redonner. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais t'as jamais été tenté justement par le fait de vouloir devenir entraîneur et d'apporter cette expérience-là que tu avais peut-être à des générations plus jeunes?
Je pense que si, mais je pense que je l'aurais fait de façon plus personnalisée, individualisée. Je pense que j'aurais pu monter une petite équipe de mon côté avec des jeunes très motivés pour de l'entraînement, mais je me serais pas forcément vue par exemple si la fédération m'avait proposé un poste d'entraîneur, je me serais pas forcément vue là-dedans. Je pense que j'ai un côté d'indépendance qui m'est important. Et puis ensuite, il faut pas perdre de vue que la vie m'a amenée aussi vers d'autres horizons et qu'à un moment notre temps j'ai dédié mon temps aussi à d'autres choses qui m'intéressaient et que voilà, on peut pas s'éparpiller et faire bien les choses si on est sur trop de projets si on est sur trop de projets à la fois, on peut pas faire tous ces projets correctement.
Ok, génial. Et j'ai vu aussi dans ton parcours que tu avais à la fois exercer en tout cas en compétition, à la fois sur de l'escalade de bloc et après bon ta discipline reine c'était l'escalade de difficulté, dis-moi si je me trompe.
Oui, c'est exact. Peut-être expliquer un peu les différences.
Bien sûr, ouais, avec plaisir, avec vraiment plaisir.
Donc du coup, l'escalade sur bloc, c'est une escalade qui se pratique sans corde. En fait, comme je l'ai dit au début, toutes les compétitions se font sur mur artificiel. Donc que l'on soit en difficulté, en bloc ou en vitesse, le support reste un support artificiel qui est monté, qui sont des structures montées pour l'événement, pour la compétition, sur une dizaine de jours et qui sont démontées après. Et lorsque l'on fait du bloc, c'est un effort, ça va correspondre à du 100 mètres en athlétisme, par exemple. C'est un effort beaucoup plus court, beaucoup plus intense. On n'a pas de corde, on a des blocs qui vont à 4 mètres, 5 mètres de haut maximum, avec des gros tapis au sol. Et les parcours tracés, il y en a plusieurs, il y en a 5 ou 6, sont vraiment extrêmement explosifs et vraiment orientés force. La difficulté, on va se retrouver par contre devant un grand mur d'une vingtaine de mètres ou de 25 mètres de développé. on va être encordé, on va grimper par un assureur de la compétition. Et là, par contre, ça va être plutôt le marathon ou en tout cas le 10 000 mètres en athlé. Ça va être quand même plus de l'endurance, de la résistance et de l'endurance. Et puis okay. Maintenant, il y a donc l'épreuve de vitesse qui est un duel où il faut aller le plus vite possible. En haut du mur, sur une voie d'une difficulté beaucoup moins dure que ce qu'on va trouver en épreuve de difficulté ou en bloc, mais ça va vraiment plus être des qualités de coordination, la coordination, l'explosivité et un côté très félin, très fluide qu'il faut pour ce genre de discipline qui est la vitesse.
Ok, bon bah en tout cas merci pour ce petit récap et notamment la métaphore avec l'athlétisme, parce que je sais que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent pratiquent la course à pied et l'athlé, donc en tout cas ça va bien leur parler. Et bah pour la petite histoire, je sais pas si tu as vu, mais j'ai eu la chance d'interviewer Mathilde Becerra, qui elle a une très jolie carrière en escalade de difficulté, et Fanny Guibert qui a un très beau palmarès aussi, plutôt elle en escalade de bloc. Donc là, un petit récap, ça fait super plaisir. Toi, tu as eu tout de suite une préférence pour la difficulté. Comment est-ce que tu la justifies, ou qu'est-ce qui te plaît plus dans cette discipline-là plutôt qu'une autre?
Alors en fait, c'est assez simple. Quand les compétitions d'escalade ont commencé, dans les années 80-85, il y avait que la difficulté qui existait.
D'accord.
Moi, je suis arrivée sur le circuit en 92-93, il y avait encore que la difficulté. Les épreuves de bloc sont arrivées un petit peu plus tard, je dirais vers 98, et j'y ai pris part parce que en fait le bloc, c'est aussi une discipline qui est intéressante, et j'étais aussi assez forte là-dedans. À l'époque, on n'avait pas de circuit Coupe du Monde de bloc, il y avait un circuit qui s'appelait le Top Rock Challenge, qui était composé de plusieurs étapes, et je gagnais aussi en parallèle des Coupes du Monde de difficulté, j'ai dû gagner 2 ou 3 Top Rock Challenge en bloc. Mais après, le choix s'est imposé parce qu'on avait, en même temps qu'on avait les épreuves de difficulté, on avait les épreuves de bloc. Et là, ça devenait difficile de pouvoir physiquement encaisser une voie de finale, voire une voie de super finale, et le lendemain d'enchaîner avec une épreuve de bloc ou l'inverse. Donc le choix, j'étais quand même plus forte en difficulté, c'était quand même plus ma filière naturelle, avec l'endurance, avec la résistance, avec rester calme dans une voie pendant 8 minutes, pendant 10 minutes, tenir, ne pas se déconcentrer, alors que le bloc, c'était quand même plus explosif, plus à coordination et plus à mouvement aléatoire, et moi je suis quand même plus quelqu'un qui est dans le contrôle, donc c'est vrai que la difficulté me convenait mieux, mais j'aimais beaucoup les deux, et je pense que c'était très intéressant de pouvoir faire un peu les deux, parce que du bloc, on apprend aussi à être fort en difficulté et probablement inversement. Mais les mouvements qu'on trouve en compétition de bloc nous apportent aussi sur les compétitions de difficulté. Je pense que c'est vraiment un des aspects de l'escalade qui est intéressant, c'est que c'est un sport multifacette et qu'il faut, on peut varier déjà. Il faut savoir varier et il faut savoir faire un peu, apprendre d'une discipline pour l'autre et s'enrichir de chaque aspect de l'escalade.
Ok. Et juste avant de revenir un peu sur toi et sur ton parcours, est-ce que tu as un avis prononcé sur le choix du comité olympique, justement, de mélanger les trois disciplines dans une seule pour les Jeux? Est-ce que tu trouves ça dur? Et toi, en tant qu'ancienne athlète sur le circuit, est-ce que tu as un avis un peu sur la question?
Oui, alors effectivement, je pense que c'est un choix qui est dur pour les athlètes. Je pense que c'est un choix qui est vraiment dur pour les athlètes, parce que à mon avis, c'est un choix par défaut. En fait, c'était un peu la seule solution de faire rentrer l'escalade comme sport olympique, mais malheureusement, ça reflète pas du tout en fait l'activité telle qu'on la pratique. Et quelqu'un qui s'est dédié toute sa vie à l'escalade de difficulté, par exemple, on lui dit tu vas pouvoir aller au jeu, mais il va falloir que tu sois hyper fort en vitesse et hyper fort en bloc. C'est un peu la punition quand même, parce que on peut pas être fort sur les trois disciplines comme ça. Et le champion du monde de difficulté, le champion du monde de bloc et le champion du monde de vitesse, c'est trois profils complètement différents.
Ouais,
et c'est pas juste, c'est pas juste pour ces sportifs qui s'entraînent dur tous les jours, de pas le champion olympique s'il va avoir un profil vraiment particulier et la championne olympique aussi, et ça sera pas les meilleurs de chaque discipline du moment, ce qui est un peu, ce qui me paraît un peu ouais injuste.
Mm. Ouais, c'est un petit peu frustrant. J'en parlais avec effectivement Fanny dans l'épisode, je crois, numéro 40. C'est sûr que c'est hyper frustrant. Elle est plusieurs fois championne de France, elle est deux fois troisième sur le classement mondial. Et bah, finalement, quand elle a appris ça pour les Jeux, c'était quelque chose de complètement nouveau et c'était très dur pour elle. Donc j'imagine que pour les sportifs, c'était pas évident. Mais après, comme tu l'as dit, c'était aussi un choix par défaut. Et je pense qu'il fallait il fallait avancer aussi pour faire rentrer ce sport au JO, parce que c'est un sport qui commence à être vraiment médiatisé, qui suscite de plus en plus l'intérêt. Donc il fallait faire un premier pas. Je pense que le choix n'était pas non plus évident, et je pense que les personnes à la tête des fédés ça a pas dû être un choix facile aussi pour elles, et qu'il fallait faire un compromis en tout cas. Bon, j'espère quand même qu'il y aura une belle compétition à Tokyo, et que ça sera un bel événement malgré tout, et que la France sera bien représentée. Mais je voulais revenir un petit peu sur toi. Toi, tu as été championne du monde en 97 et 99, dis-moi si je me trompe.
Oui, c'est ça.
Est-ce que ça, il y a quelque chose qui change dans la vie d'un athlète? C'était un sport pas encore très médiatisé, mais tu rentres quand même dans le cercle privé des champions et des championnes du monde. Est-ce que ça a changé des choses dans ta vie concrètement?
Je dirais que pratiquer un sport de haut niveau et arriver finalement un peu pour nous au titre ultime, vu qu'on n'avait pas les Jeux Olympiques, oui, ça change forcément plein de choses, ça transforme forcément une personne. Je suis d'un naturel plutôt timide, avec un peu un manque de confiance en moi, et arriver à gagner des championnats du monde, c'était quelque chose de fou, c'était un rêve fou, je trouvais pas les mots, c'était difficile à partager avec ma famille, parce que j'arrivais pas à exprimer toutes ces émotions fortes qu'on vit comme ça sur un moment aussi intense. Quand on devient champion du monde, c'est quand même quelque chose d'incroyable dans la vie de n'importe quel homme et de n'importe quelle femme, et ça transforme, c'est évident.
Ouais. Et tu penses que ça t'a un peu, il y a une certaine forme d'addiction, tu vois, quand je vois ton parcours, j'ai l'impression que, bah, même encore aujourd'hui, tu te lances des défis, alors peut-être moins dans la performance et plus par la passion. Mais tu penses que ces émotions fortes là, il y a une certaine addiction qui se crée, et que ça te donne envie en permanence de repousser tes limites?
Je n'aurais pas parlé sous forme d'addiction. Je pense que justement après
le terme est un peu fort, ouais.
Ce titre ce premier titre en 97 de championne du monde, j'ai vraiment eu un déclic en moi sur la prise de conscience de mes capacités, de ce que je pouvais faire, du dépassement et des limites qu'on se met, alors qu'en fait on peut vraiment aller beaucoup plus loin que ce qu'on croit. On a des ressources en nous qui sont vraiment insoupçonnées, et je pense que voilà, ces championnats du monde ont fait des clics, m'ont permis d'aborder les choses, les autres compétitions derrière, vraiment autrement, avec une autre assurance. C'était pas de la prétention, je me suis jamais dit je suis la plus forte et je vais le rester pendant longtemps, mais vraiment derrière ça, j'ai abordé les compétitions avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup moins de doutes, et avec un bien meilleur niveau, en fait.
D'accord, ok.
Et je pense que après, dans ma vie, je me suis dit peut-être que j'ai besoin de me mettre dans des situations qui me sont pas confortables, qui me sont pas les plus faciles, pour ouais. encore apprendre sur moi. Si on reste toujours dans ce qu'on sait faire, si on reste toujours dans sa zone de confort, on va vivre très bien et on va avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. Mais si on se met dans des situations qui sont pas à nos avantages, des situations nouvelles, des expériences ou des choses qu'on n'a jamais eu à faire, on se trouve sur une zone qui est beaucoup moins confortable, et on doit vraiment apprendre et se dire, ok, là je peux compter que sur moi. Et je trouve que se mettre entre guillemets presque en difficulté, peut-être que le mot difficulté est pas le bon, mais de se mettre dans ce genre de situation volontairement, ça continue, je continue d'apprendre sur moi, je continue d'apprendre sur les autres et je continue d'apprendre aussi presque sur la vie en général et sur sur nos ressources et sur nos capacités à traiter des situations inhabituelles, des situations qui peuvent être stressantes, des situations qui peuvent être dangereuses ou tout simplement des situations où on n'a aucune idée de « mais j'ai jamais eu à faire ça de ma vie en mécanique et là, il faut que je le fasse et je suis ni en danger, ni exposée, ni quoi, mais il faut que je m'en sorte. » Et je trouve que c'est un aspect intéressant parce que on apprend toujours à avoir du bon sens, à avoir un sens critique et à se dire c'est simple, il faut penser simple, il faut faire simple, mais il faut y arriver.
Ok, génial. Bon, en tout cas, c'était un sujet que je voulais aborder avec toi parce que j'ai vu que tu avais beaucoup étudié la psychologie et le sujet un petit peu de la préparation mentale. J'ai l'impression en t'entendant que effectivement le fait de commencer à gagner des titres, toi, ça t'a permis de gagner beaucoup de confiance en toi. Est-ce que tu as d'autres secrets, hormis le fait peut-être de sortir de sa zone de confort, pour se bâtir une confiance et pour se préparer justement à sortir un petit peu de sa zone de confort?
Alors, secret, je sais pas, mais disons que je pense qu'il n'y a rien de, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de choses. Je pense qu'avant tout, dans la vie, il faut oser sans crainte. Il faut se dire, ok, je me lance. J'ose, j'essaye et on apprend de ça. Bah ça marche pas, c'est pas très grave, c'est de l'expérience. Et en plus j'ai compris plein de choses. Je me suis lancée et ça a marché, c'est de la confiance. Je suis prête pour une petite étape suivante. Donc je pense que c'est vraiment, on construit vraiment la confiance et qu'on peut avoir en soi par étape, par expérience et par oser se lancer sans forcément se mettre dans des situations volontairement qui nous font pas facile, mais se dire ok, je me lance sur ça, je vais voir et ça marche, c'est super. Ça marche pas, je le vis pas comme un échec, je le vis pas comme une non réussite, je le vis comme de l'apprentissage, comme de l'expérience, comme j'acquiers quelque chose de nouveau quand même parce que j'apprends.
Ok, mais tu répètes, enfin tu t'inspires. Je sais pas si tu connais cette phrase de Nelson Mandela qui disait voilà, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Moi c'est un mantra que j'ai un peu dans ma vie, qui est de me dire que on n'échoue jamais finalement. L'échec c'est juste une perception de l'esprit et que l'apprentissage c'est ça en fait finalement, c'est le fait de tomber et de se relever. J'ai l'impression.
Oui, complètement. Et d'autant plus en fait en montagne où des fois on travaille sur des projets qui pendant presque un an et on va arriver pour ce projet-là et ça va pas. On va être un mois et demi en expédition et en fait finalement on revient sans avoir fait le sommet. Mais c'est pas un échec. On a appris plein de choses au cours de ces 6 semaines. On a appris à comment on réagit à l'altitude. On a appris à gérer plein de choses sur un camp de base, sur des camps avancés, sur le groupe, sur les prises de décision. Enfin et donc forcément c'est pas valorisant peut-être de pas réussir le sommet, mais ce n'est pas un échec. Et je pense que la notion d'échec aussi, elle dépend vraiment de la société dans laquelle on vit. Et peut-être qu'on a à tort trop tendance à mettre de l'importance dans nos sociétés occidentales sur entre guillemets réussite et échec. Et effectivement, ce sont des choses qui peuvent vraiment le curseur peut vraiment varier, la perception qu'on s'en fait peut vraiment varier. Et devrait varier un peu plus en fait.
Ok, en tout cas c'est génial, j'adore tout ce que tu me dis, je bois tes paroles du début jusqu'à la fin. Si je reviens un petit peu à ton parcours, j'ai l'impression qu'après cette carrière d'escalade où tu l'as dit effectivement, les ascensions se font sur des parois artificielles, j'ai l'impression qu'il y a eu un gros retour à la nature. Peut-être dans, alors dis-moi si je me trompe, mais j'ai eu l'impression que ta deuxième passion après ça a été le saut, enfin le base jump. Peut-être que c'était pas ça, mais quelle a été un peu ta réflexion par rapport en fait à la fin de la carrière en compétition et comment est-ce que tu as démarré, on va dire, j'ai pas envie d'appeler ça une deuxième vie, mais comment est-ce que tu as retrouvé un second souffle dans le sport outdoor et dans l'aventure?
Alors c'est un sujet qui pour moi est un peu pas délicat, mais en fait il faut savoir que j'ai eu une magnifique carrière avec de nombreux titres internationaux et qu'elle s'est arrêtée net sur un accident. Je me trouvais aux États-Unis, c'était en 2001, je venais encore de gagner ma troisième Coupe du Monde au général. Je travaillais une voie dure en, sur Rocher Naturel, avec, on faisait un film, on documentait en fait l'ascension de cette voie très dure. Et un jour, je me suis fait assurer par une personne, une jeune femme qui n'était pas mes amies. Les personnes à qui je grimpais d'habitude étaient parties ce jour-là. Et donc, c'était la compagne d'un des caméramans qui se trouvait là pour le tournage qui m'a assurée et qui a fait une erreur d'assurage et qui m'a propulsée au sol. En fait, je suis pas tombée. Elle me redescendait. Je venais de faire une voie d'échauffement. Elle me redescendait. Et là, elle a paniqué. Elle a lâché la corde. Ma corde était neuve, très fine. C'était le début des cordes très fines qu'on avait, qui n'étaient pas forcément adaptées à l'outil d'assurage qu'on avait à cette époque-là. Et donc, je suis allée jusqu'au sol en arrivant très violemment percuter le sol sans avoir beaucoup de frein de la corde, puisque la corde était lâchée. Et j'ai dû mettre un terme à ma carrière de compétitrice suite à cet accident. Et surtout, il y a quand même eu un traumatisme qui a été assez dur, parce que je me suis vue mourir, parce que j'ai eu extrêmement peur, parce que j'ai été dans une position, c'était ma première grosse blessure ou avec un choc psychique, on va dire. Et derrière, j'ai mis beaucoup d'années avant de pouvoir regrimper. Et en fait, pendant cette période de transition où j'avais un peur de grimper, j'avais peur que l'assureur me lâche, j'y arrivais pas. Je me suis dit, ok, il faut pas forcer, il faut pas essayer de se forcer à aller grimper. Ce sport, tu l'aimes, c'est ta passion. Si un jour tu dois arriver à regrimper librement sans cette appréhension, sans cette peur panique qui te saisit en fait, et ben ça reviendra. Et fais autre chose en attendant. Et j'avais toujours voulu me mettre au Belgium. J'avais déjà fait pas mal de parachutisme. Donc du coup, j'ai continué à sauter beaucoup en parachutisme pour faire beaucoup de sauts et me sentir prête pour du Belgium. Et puis c'est vrai que aussi en se trouvant en haut de quand on est en haut d'une falaise ou quoi, on est aussi attiré par ce vide. On se dit, mais si je pouvais, il y a cette sensation qui est paradoxale, parce que l'humain, il veut se protéger, il dit non, on saute pas. Et puis à l'intérieur, on se dit, mais je sais le faire, je me suis entraînée, je me suis préparée pour. Donc voilà, il y a cet aspect-là qui est vraiment très fort. Et donc je me suis mise au base jump pas pour boucher un trou ou combler un manque, mais plus par curiosité, presque une curiosité intellectuelle, et puis une curiosité aussi un peu de faire un autre sport qui m'était pas le plus à un moment on n'a plus le contrôle vraiment de ce qui se passe, et moi, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui est dans le contrôle, et voilà, j'avais peut-être besoin de me lancer dans d'autres activités qui étaient qui pouvaient paraître extrêmement dangereuses et qui le sont, hein, mais j'avais besoin d'explorer cet aspect-là aussi de moi-même et découvrir en fait ce que c'était que ce sport avec le base jump. Donc pendant plusieurs années, j'ai beaucoup sauté. Je me suis également mise au parapente et voilà, c'est des sports qui m'ont attirée et qui m'ont permis en fait de garder un contact avec la nature, garder un contact avec la montagne et d'avoir envie de me remettre à grimper.
D'accord, ok. Et j'ai une petite question par rapport justement au base jump. C'est vraiment un sport particulièrement extrême qui est vraiment pratiqué par, je pense, une toute petite minorité de personnes. Comment est-ce que ça s'apprend? Quelle est un petit peu l'évolution que tu suis pour t'y mettre? Parce que je pense qu'on peut pas être n'importe qui, avoir fait un saut en parachute et puis du jour au lendemain se dire je m'y mets. Quel est le cursus un petit peu que toi tu as suivi et qu'il faut suivre pour avoir le droit de faire ce genre d'exploit?
Alors, j'ai fait, comme je l'ai dit, hein, moi j'ai fait énormément de sauts d'avion. Je me sentais pas d'aller après 20 sauts d'avion sauter en Belgium. J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui l'ont fait et qui sont encore là, mais voilà, sont des personnes avec des forts caractères, des personnes qui ont pris énormément de risques aussi dans leur vie avant. Et moi, j'étais pas là-dedans vraiment. Donc j'ai fait, je pense, quasiment 200 sauts d'avion avant de commencer à me dire, j'ai visé les 200 sauts d'avion pour me dire quand j'ai fait 200 sauts, j'irai sauter en base jump. Après, à l'époque, il n'y avait pas forcément vraiment d'école de base, alors que maintenant, on trouve, il y a un peu dans chaque pays, il y a des petites structures qui vous forme au base jump. Donc soit on va dans une structure comme ça et on apprend à sauter, et ça peut être au début sauter d'un pont, parce que si on a une orientation, c'est-à-dire si à l'ouverture de l'aile on a enfoncé un peu trop une épaule ou quoi, et que notre parachute se tourne vers l'endroit où on a sauté, dans un pont on risque pas de taper, il y a que du vide derrière, donc comme souvent les écoles commencent depuis un pont. On peut aussi commencer depuis un parapente. Moi j'ai beaucoup d'amis qui font du parapente, qui m'ont emmené en biplace et je pouvais sauter de biplace. Donc en fait j'ai commencé à me rapprocher un peu de personnes qui faisaient du base jump, voir si il y avait quelqu'un qui était prêt à m'apprendre, et puis j'ai fait mes premiers sauts depuis un parapente, ce qui est un petit peu différent parce qu'on a toujours de la vitesse, alors que quand on part en base jump on est vraiment sur un objet qui est à l'arrêt, mais c'est déjà une bonne première approche et une bonne première sensation en minimisant en fait les risques. Et puis je me suis rapprochée de personnes qui voulaient aussi apprendre à faire du base, et puis on s'est organisé un petit groupe, c'était aux États-Unis, où on a commencé à sauter d'un pont aux États-Unis qui s'appelle le Potato Bridge, où c'est le seul pont qui est où on a le droit de faire du base jump. Donc on savait qu'on pouvait aller là-bas, qu'il y avait beaucoup de monde qui sautait, et surtout on avait un groupe d'amis qui était prêt à nous apprendre. Et puis de là je me suis dit ok, je suis prête, je vais aller en Norvège, parce que en Norvège les sauts sont très longs et sont vraiment très raides, ce qui minimise aussi le risque d'impact ou de retour falaise ou de choses comme ça. Et en rentrant de Norvège, je me suis dit c'est trop bien. En fait, pour le coup, le base jump c'est extrêmement addictif. Et quand on commence à sauter, on n'a qu'une envie, c'est de sauter et de sauter plus. Donc on commence avec un sac avec son premier matériel. On veut tout de suite vite en acheter un deuxième pour pouvoir faire plus de sauts, parce que entre chaque saut, il faut plier sa voile de base. Ça prend du temps. Donc si on en a deux, on peut vite retourner sauter, faire un deuxième saut tout de suite. Donc ça, c'est vraiment très addictif. Et je suis rentrée de Norvège et je me suis dit, oh, je vais aller en Suisse sauter. Et là, j'avais deux amis qui montaient au Mushroom Alleyer. Et j'ai dit, ah, mais je viens avec vous. Je veux vraiment sauter ça, parce que Alleyer, c'est déjà une paroi mythique pour des alpinistes. Et il y a effectivement, sur cette paroi, sur cette face nord, il y a un pilier qui se détache de la paroi principale, qu'on appelle le mushroom, le champignon, qui a une forme de champignon au sommet. Il y a une petite tyrolienne câblée qui permet de passer de la paroi de la face nord à ce pilier qui est détaché. Et de là, en fait, on a un saut majestueux. Et voilà, moi, j'ai trouvé énormément de plaisir à sauter en base dans ces environnements montagneux, en fait.
Wow, c'est génial. Écoute, ça me donne des frissons rien que de t'entendre. C'est vrai que que ce soit le mushroom ou même la Norvège, et c'est là qu'on voit beaucoup de performances aujourd'hui, parce que c'est maintenant ça commence à être documenté, c'est très souvent filmé. Et toi d'ailleurs, comment est-ce qu'à l'époque on en vit? Est-ce qu'il y a déjà des sponsors? J'ai l'impression qu'il y a quelques marques, notamment celle avec un taureau avec des ailes qui sponsorise énormément de sports extrêmes. Est-ce que à l'époque déjà c'était le cas? Comment est-ce que toi tu fais pour pouvoir en faire une carrière? Est-ce que tu peux en vivre déjà à l'époque?
Alors le Belgium, ça m'a jamais fait vivre. J'avais mes sponsors liés à la pratique de l'escalade qui continuent à me soutenir. Après ça a été une période où voilà, je dépensais pas beaucoup d'argent et j'avais pas besoin de beaucoup d'argent, mais en fait je vivais grâce à mes sponsors liés au milieu de l'escalade et un peu à mon aspect déjà un peu plus polyvalent que je prenais. J'étais plus vraiment la grimpeuse de Formule 1, on va dire, vraiment hyper précise et dans la performance, mais j'étais déjà en train de prendre un profil un peu plus polyvalent dans le milieu de la montagne, le milieu outdoor. Et le base jump, c'était quand même vraiment... À l'époque, il y avait, je pense que quelques personnes qui pouvaient en vivre, elles en vivaient plutôt parce qu'elles faisaient des publicités, des films publicitaires ou des photos publicitaires pour des marques qui pouvaient être pas forcément des marques de montagne, hein, ça pouvait être une marque de voiture, ça pouvait être une marque de cigarette. Donc je pense que les quelques personnes très connues on pu vivre du base jump par ça, et puis après progressivement des gros sponsors dont des boissons énergétiques sont arrivés et ont pu soutenir des athlètes avec quand même pas mal de de questionnement et de c'est difficile d'être une boîte et de soutenir un athlète qui fait un sport à risque, et quand on commence à en perdre 1, 2, 3, 10, c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion qui doit être menée sur sur comment est-ce qu'on sponsorise ces athlètes, comment est-ce qu'on les protège, comment est-ce qu'on évite que ça aille au drame, quoi. Et le BGM, c'est un sport extrêmement délicat à sponsoriser, donc je pense qu'il y a des vagues et, à un moment beaucoup de monde s'est engouffré dans le sponsoring du base jump parce que ça fait rêver quand on voit plusieurs personnes qui sautent avec les ailes en wingsuit et qui volent près du terrain ou dans des espaces de nature qui sont vraiment magnifiques. Ça, c'est quand même époustouflant. Mais en même temps, c'est pas toujours, ça donne pas toujours une bonne image aux marques de sponsoriser un athlète qui va peut-être malheureusement se tuer quelques mois plus tard. Donc, c'est un sport qui est difficile à sponsoriser.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, c'est sûr que c'est très sensible. En tout cas, ouais, en termes de communication, parce que puis mine de rien, il y a un petit côté où tu vois, bon, il y a d'autres sports où c'est vraiment critiqué, notamment, mais plus pour l'aspect dopage, tu vois, où effectivement les sommes d'argent qui sont mises par les marques encouragent forcément les sportifs à utiliser des voies secondaires pour la performance. Là, effectivement, c'est peut-être on encourage un peu les sportifs à repousser leurs limites sans cesse, sauf que quand c'est un sport aussi dangereux, la limite est dangereuse, quoi. Donc je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et toi, cette passion, tu l'as encore pour le base, ou est-ce que je sais que tu as, on va en parler tout de suite après, de ta dernière expédition et de l'aventure de tous ces sommets que tu as fait dans les Alpes, mais j'ai vu que tu avais fait beaucoup de parapente à ce moment-là, mais est-ce que c'est un sport que tu pratiques encore, est-ce que c'est quelque chose qui t'attire encore maintenant?
Non, c'est un sport que j'ai arrêté. Je suis vraiment contente de l'avoir pratiqué, d'en avoir goûté une partie, et je suis aussi vraiment contente, satisfaite même d'avoir su arrêter et d'avoir revendu tout mon matériel. En fait, il faut voir qu'à un moment, il y a eu une grande évolution sur les ailes, sur les wingsuits, qui sont devenues extrêmement performantes qui sont devenues extrêmement performantes. Et à un moment, tout le monde s'est mis à voler très très près du relief. Certains ont appelé ça le proximity flying. Et en fait, il y a eu énormément d'accidents. C'était horrible. Il y a un été, je pense que... Donc, il faut voir que le Belgium, c'est une toute petite scène. C'est une toute petite communauté. On se connaît tous.
Bien sûr.
Un été, je sais plus si c'était en 2013 ou en 2012, mais chaque semaine, il y en avait un qui se tuait. Et c'était... pour moi, c'était choquant parce que je suis déjà dans un environnement de montagne, de ski, où je perds des amis. Le base, j'en perdais encore, et je me suis dit, et en plus, surtout, j'ai perdu un ami vraiment très proche, qui était le mari de Steph Davis à l'époque, qui est Steph Davis, qui est une grimpeuse américaine très connue, qui fait aussi du base jump, avec qui j'ai sauté en base et avec qui j'ai grimpé et je grimperai encore. Et Mario, son mari, était quelqu'un de très très expérimenté, de très calme. C'était pas un petit jeune tout fou. C'était plutôt quelqu'un qui, au contraire, mettait des freins, qui sélectionnait vraiment les endroits où il sautait, qui sélectionnait les moments de la journée pour sauter. Et le fait que Mario percute deux tours dans les Dolomites comme ça, ça m'a tellement tellement impactée, tellement choquée. J'avais tellement du mal à accepter ça et à comprendre ça. Je me suis dit non, mais en fait, ce sport, il est vraiment bien plus dangereux que ce que je veux bien me le dire, que ce que je le pense, et je veux pas être la prochaine sur la liste. Et du coup, le décès de Mario m'a décidé. Vraiment, c'est ça qui m'a vraiment décidé, avec l'accumulation des autres personnes à vendre le matériel et à arrêter ce sport qui reste un sport pour moi magique. Je trouve que c'est fou de pouvoir faire ça, mais voilà, j'avais envie de. Je me suis dit. Assez simplement, je me suis dit, est-ce que j'ai besoin de ça pour être heureuse dans ma vie? Non. Bon, alors, j'arrête. C'est trop dangereux. J'ai pris la notion de la vie est quelque chose de tellement précieux que je vais pas prendre ce risque de plus, en fait. J'ai pas besoin de ça pour avoir le sourire, pour avoir l'envie, pour avoir l'énergie. Et par contre, je risque de perdre la vie. Et ça, je peux pas prendre ce risque-là.
D'accord, ok. Écoute, c'est très touchant. J'en ai des frissons et presque les larmes aux yeux, tu vois, quand tu le racontes. Et c'est vrai que, du coup, ça m'amène à une autre question. C'est comment est-ce que tu vis la prise de risque à ce moment-là? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a une petite part d'insouciance aussi. T'as l'air de dire que tu te mets un voile sur les yeux, peut-être que tu te mens à toi-même. Mais c'est quand même un sport où j'ai l'impression qu'on est obligé de maîtriser le risque énormément. Est-ce que ça se travaille, ça? Est-ce que ça se prépare? Est-ce que tu essayes de l'oublier complètement? Est-ce qu'au contraire tu essayes d'y penser le plus possible? Quel est ton, avec le recul, quel était ton rapport justement au risque et peut-être à la mort, quoi, tout simplement?
Je pense que c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Il faut l'intégrer. Il faut pas le repousser. Il faut pas se mettre un voile sur les yeux. Il faut l'intégrer. Et après, il faut juste pas que la peur soit paralysante. Parce que quand la peur devient trop forte, elle nous amène à faire, à pas agir, à pas prendre les bonnes décisions, à pas agir, à pas mettre la bonne action en place. Et là, ça devient très dangereux. Donc, tant que cette peur, elle est intégrée, tant que le risque, il est intégré, accepter, intégrer, et qu'il n'est pas paralysant, il n'y a pas de problème. Après, on peut mentaliser beaucoup de choses. Je pense que à partir du moment où quand on plie son parachute, on plie de façon concentrée, sans discuter avec le voisin d'à côté qui plie aussi son parachute, sans oublier aucune étape. Pour moi, c'était des choses très importantes et c'est des choses j'ai appris très jeune avec l'escalade. Une des premières choses que m'a dit Picou, le guide qui m'a appris à grimper, il m'a dit quand tu fais ton nœud, tu fais que ton nœud, tu ne vas pas discuter. Si quelqu'un vient vers toi pour te parler, tu lui dis « Attends, je fais mon nœud, on discute quand j'ai fini. » Parce que c'est trop facile de commencer à faire un nœud, de s'arrêter parce que quelqu'un demande quelque chose et de partir grimper en ayant son nœud à moitié fait. Et là ouais. C'est le temps.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et c'est la même chose en fait pour tout dans la vie. Quand on fait quelque chose, et surtout donc pour tout dans la vie où il y a un risque, quand on fait quelque chose, on est à ce qu'on fait. Et donc quand je pliais ma voile de base, j'étais à ce que je faisais. Je la pliais correctement du début à la fin sans m'arrêter. C'est quelque chose qu'on m'a appris, que j'ai toujours fait. Et on plie en étant concentré, en mettant de l'énergie dedans pour que déjà le pliage soit parfait, enfin pas parfait parce que c'est difficile de faire un pliage parfait, mais déjà que le pliage soit très bon. Et déjà à ce niveau-là, on élimine déjà des problèmes, des accidents. Si son pliage est bien fait, il n'y aura pas de mauvaise ouverture, il n'y aura pas de twist, il n'y aura pas de line over. Enfin, donc on élimine déjà une grande part d'accidents possibles. Et puis après, quand on va sauter, comment est-ce que je suis? Est-ce que je me sens motivée? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que je suis avec les bonnes personnes? On peut aussi analyser ça et être capable de faire demi-tour. Mais après aussi, comme toute chose, si on commence à trop se poser de questions, on ne fait plus rien. Donc la limite, elle est toujours fine. C'est un peu pareil en montagne. Est-ce qu'on est assez rapide? Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce que le mauvais temps va pas arriver? Si on se pose trop de questions, finalement, c'est sûr qu'on va pas arriver en haut. Mais donc voilà, c'est pour moi, ces sports, c'est toujours une limite très fine. D'en faire trop ou pas assez, d'être dans le juste ou de pas être dans le juste. Et plus on se connaît, plus entre guillemets on vieillit, on prend de l'expérience, plus cette limite on l'appréhende de la meilleure façon possible. Et c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant, comme aspect mental en fait, de connaître cette limite, de l'appréhender, de se dire je m'écoute, mais je m'écoute pas trop, mais je m'écoute assez pour quand même pas avoir un accident, pour qu'il y ait rien qui se passe. Voilà. C'est du dosage.
En tout cas, c'est, ouais, mais écoute, tu fais vraiment bien de le répéter, de le marteler, que ces sports, bien qu'ils aient l'air accessibles, quand on le voit en vidéo et que ça a l'air tellement simple finalement quand des champions ou des athlètes se lancent dans ce genre de discipline et dans ce genre d'exploit, ça a l'air tellement facile, tellement fluide. Mais tu fais bien de respecter que la seule chose qui fait la différence, c'est vraiment l'expérience, la répétition du geste et la concentration et la rigueur, je pense, qu'il faut mettre dans toutes les consignes de sécurité, que ce soit dans l'escalade, l'alpinisme ou le saut en parachute et encore plus le base, tu vois. On oublie trop souvent que finalement, ce qui fait la réussite aussi des sportifs, en tout cas ceux qui rentrent dans l'histoire, j'ai envie de dire de manière en garde dans leur vie, c'est ça, c'est la répétition, la rigueur, et même malgré ça, il y a quand même des athlètes qui perdent la vie. Donc je pense que tu fais bien de le répéter, c'est hyper important et je pense que c'est en plus, je sais pas ce que tu en penses vu que tu as fait plusieurs sports, mais ça s'adapte aussi avec à toutes les disciplines sportives, quoi. Quand on fait une chose, il faut faire une à la fois et essayer de mettre toute sa concentration dessus et surtout s'écouter, quoi. Ne jamais oublier ce que la petite voix nous dit à l'intérieur, quoi.
Oui, complètement, complètement. Je vais rebondir là-dessus parce que il y a quelque chose de très important que tu as dit et que j'ai pas abordé, mais c'est vrai que maintenant on est quand même dans un monde de l'image et des réseaux sociaux et que des jeunes vont voir des gens voler avec des wingsuits qui sont hyper performants. Ils vont se dire ah mais c'est ça que je veux faire. Ou des fois moi je reçois des messages sur Instagram ou Facebook de je voudrais être sponsorisé en alpinisme. Comment je dois faire? Et tout ça. Et je me dis, mince, tous ces jeunes, ils perdent de vue que pour en arriver où on en est arrivé, pour en arriver à tel niveau de pratique en ski de pentraide d'un Vivian Bruchet, par exemple, ou pour en arriver à tel niveau de pratique de bench jump de telle ou telle personne, ou à tel niveau de performance pratique en alpinisme de tel grimpeur, il y a des années et des années et des années de travail avec et de pratique. Hein, quand je dis travail, c'est de l'entraînement, c'est de la réflexion, mais c'est du terrain, c'est de la présence sur le terrain, c'est cette acquisition d'expérience, c'est connaître la montagne, apprendre à la lire, et ça, il faut pas l'oublier que derrière toute performance de haut niveau ou toute maîtrise d'un sport, qu'il soit compétitif ou non compétitif, il y a des années et des années de travail et de régularité pas de sacrifice, mais on se dédie complètement à ce qu'on fait et c'est de l'effort. Ça nous est pas tombé comme ça du ciel du jour au lendemain. Ça a été et je pense qu'il faut quand même leur dire pour que les générations qui arrivent là maintenant, qui voient toutes ces images, qui voient sur nos profils des photos, des petits films, qui se disent ah c'est chouette, j'ai envie de faire pareil. Il faut qu'ils sachent que avant d'en arriver là, effectivement, j'ai loupé 50 décos en parapente, j'ai loupé tant de voies en escalade, mais avec le travail, avec le temps, j'ai appris de ces loupés entre guillemets, j'ai appris des retours sans sommet et j'ai aussi appris des sommets qu'on a fait ou des vols qu'on a fait et ça me permet de faire ce que je fais aujourd'hui, mais derrière il y a quand même des années et des années et un énorme travail, une énorme concentration, une énorme présence dans ce que j'ai fait. On peut pas dans ces sports à risque les faire à la légère, ou dans des sports qui ne sont pas à risque mais qui sont dans une démarche de haut niveau, on est obligé de s'employer et d'y aller vraiment entièrement en fait.
Ouais, ok. Bon, je pense en plus ça s'adapte à beaucoup de sports. Hein. De toute façon, y mettre toute son énergie et toute sa concentration, je pense que c'est une des clés de la réussite sportive. Je vais un petit peu sauter un petit peu de sujet parce que le temps passe et j'ai pas envie d'y passer toute la journée, même si cette conversation est passionnante et je suis vraiment ravi de la faire, mais je pouvais vraiment vraiment pas passer à côté à côté de ta dernière aventure, de ta dernière expédition. Alors dis-moi si on a eu après, mais tu as eu l'idée, alors tu me diras en quelle année, mais de faire les 82 arcs alpins de plus de 4000 mètres. Il me semble qu'il y en avait quelques-uns qui l'avaient fait avant toi et que c'était quelques alpinistes qui avaient aussi eu envie de tenter ça sous forme de record de vitesse. Et j'avais beaucoup aimé en fait la réflexion que tu as eue derrière ça. J'ai beaucoup aimé comment il était venu l'idée de faire cette aventure. Alors je l'ai entendu sur d'autres podcasts, je l'ai entendu sur d'autres interviews, mais à chaque fois ça m'a donné vraiment des frissons, des émotions que tu racontes. Et du coup, je te fais un petit peu répéter ce que tu dis d'habitude, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, voilà, comment t'es venu l'idée de faire cette aventure et comment est-ce que tu t'es lancé, comment est-ce que tu t'es préparé pour ça?
Oui, alors effectivement, ça a été le gros projet, mon dernier gros projet, on va dire, de grimper tous les 82 sommets de plus de 4000 mètres qu'on a dans les Alpes et qui sont répartis sur la France, l'Italie et la Suisse. Il n'y a pas de 4000 mètres en Autriche, par exemple, ce qui est étonnant, mais tous les 4000 mètres sont concentrés sur trois pays. Et c'est une idée qui m'est apparue. J'ai connu une période un peu étrange de blessures, qui n'était pas forcément facile à vivre parce que j'étais à l'arrêt tout le temps et que j'arrivais plus à me projeter sur des projets que j'aurais aimé. Et finalement, en 2014, j'ai commencé à plus avoir trop de blessures et à me dire il me faut un beau projet, un projet qui m'anime, un projet qui ressemble à la personne que je suis devenue. Et j'ai pensé à ces projets de tous les 4000 mètres des Alpes. Comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui avait déjà été fait. Hein. Ça a été fait par Ulisztek l'année suivante, en 2015, qui est un alpiniste suisse extrêmement connu et qui l'a fait dans un temps incroyablement court de 62 jours, je crois, sans prendre de remontée mécanique, mais aussi sans prendre de véhicule entre Saspe et Zermatt, entre Zermatt et le Mont Blanc. Il a tout fait en vélo ou en courant. Donc c'était une performance vraiment extraordinaire. Ouais. Et puis avant lui, il y a quand même eu la cordée Patrick Béraud et Philippe Magnien qui sont lancés dans ce projet de faire les 82 4000 des Alpes en 82 jours, qui était un projet magnifique. Ils ont malheureusement rencontré une météo vraiment très dure au début du projet avec beaucoup de tempêtes, beaucoup de froid, donc ils ont pris du retard et puis finalement ils ont rattrapé le retard. Et puis vers la fin, Patrick Béraud a malheureusement fait une chute sur un sommet sur le Tachhorn entre Tach et Dôme en Suisse où il s'est tué et ils ont arrêté le projet. Donc il y a une grosse histoire de ces 82 4000 et il y a énormément de gens qui se lancent dans ce projet et qui collectionnent entre guillemets les 4000. Certains finissent, d'autres finissent pas. Et je me suis dit, c'est un beau projet, il faut que je le fasse un peu à mon image. Et je me suis dit, l'idée, ce serait déjà de le partager avec un maximum de compagnons et compagnes de cordée. Alors, je dis ça parce que il faut voir que quand on va en montagne, on va rarement seul. Il y a des glaciers, il faut être, on s'encorde, on met une corde entre les deux, et si un bascule dans une crevasse, l'autre le retient. Et puis, en fait, la montagne, avant tout, c'est quand même une histoire de cordée, ce sont des ascensions qu'on partage. Donc, je me suis dit, ce projet, je vais le partager avec un maximum de compagnes et compagnons de cordée. Je vais aussi le faire sans utiliser de remontée mécanique. Je voudrais le faire un peu comme avant, on faisait, en partant, d'en bas, des vallées, pour monter sur le sommet, sans prendre le téléphérique de l'Aiguille du Midi, par exemple, ou sans prendre le train de la Jungfrau, des choses comme ça. Donc vraiment, je suis partie à chaque fois d'en bas des vallées pour monter sur un sommet de plus de 4000 mètres. Et ensuite, je voulais aussi montrer, ou en tout cas, montrer, ça fait peut-être un peu prétentieux, mais je me disais, finalement, on traverse la planète entière pour aller faire des expéditions en Patagonie ou au Népal ou ailleurs, alors que on a un terrain de jeu qui est incroyable. On a plein de montagnes autour de nous dont on connaît pas tous les noms, dont on connaît pas toutes les vallées, dont on connaît pas tous les refuges. Je me suis dit, pourquoi pas faire ce projet entre guillemets local pour connaître mieux géographiquement nos Alpes, pour connaître mieux tous ces sommets et aussi s'en inspirer pour d'autres projets ultérieurs, puisque une fois qu'on est monté sur un sommet, on peut se dire la prochaine fois je vais faire la face nord de ce sommet. Et cet aspect aussi de pas partir loin mais d'avoir une aventure à la maison et de se déplacer dans nos montagnes dans les Alpes m'a attiré beaucoup. Je me suis dit ça va être super, c'est exactement ça me correspond. J'essaye de plus prendre l'avion, de faire attention à mon impact carbone, et ça c'est aussi un projet qui va dans ce dans ce sens-là. Et puis enfin, je me suis dit, bon, j'adore le ski, je suis née quasiment avec des skis au pied. Le parapente, c'est une super activité en complément de l'alpinisme. Je vais associer, je vais mettre du ski dans ce projet et du parapente aussi quand c'est possible. Donc, ouais. Donc voilà, le squelette du projet était posé. Après, il fallait l'organiser. Il y avait des aspects logiciels. Il fallait que tous les copains et copines qui me disaient je serai libre du 20 mars au 5 avril, ben s'y tiennent, parce que là, on avait fait un planning à l'avance. Et puis moi aussi, je sortais de cette grande période de blessures et je me suis dit, bon, il faut quand même que je me prépare, parce que les copains, ils vont arriver frais, dispo, reposés, mais moi j'aurais enchaîné d'autres sommets avant. Et il faut vraiment que je sois capable de bien récupérer d'une ascension à une autre. Il faut voir que voilà, nos journées, elles faisaient rarement moins de 10 heures d'ascension ou ascension et descente, on va dire. Et des fois, ouais, on a pu enchaîner des ascensions techniques de 18 heures, par exemple. Donc, pendant 18 heures, on est en mouvement, wow, en altitude, dans le vent, dans le froid. Et on se couche à 20 heures, 21 heures, après avoir mangé un lyophilisé. Puis, on se relève le lendemain à 4 heures du mat pour continuer l'ascension. Donc, c'est quand même des choses qui sont physiques. Et les 9 mois avant le départ que j'avais fixé, qui était en mars, au 1er mars 2017, les 9 mois qui ont précédé le départ, je me suis entraînée avec une structure qui s'appelle Uphill Athlete, qui est une structure montée par un alpiniste américain très connu. Et donc, je me suis entraînée 6 jours sur 7 avec des grosses séances d'endurance, okay, et puis des séances d'intervalle et des séances de gainage. Voilà, pour poser un peu les choses.
Waouh, écoute, c'est génial. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Moi, ça me donne des frissons. Je suis un grand passionné des Alpes. Tu mentionnais au tout début de l'interview que tu avais grandi, que tu avais beaucoup skié aux Arcs. Et mes parents ont un petit appartement là-bas, donc tu vois, il y a plein de petites choses. Et tu vois, moi, j'ai fait des 4000, j'en ai fait très très peu. Tous ceux qui sont vraiment les plus simples, en tout cas. Mais très jeune, j'étais attiré par la montagne. Donc ça me donne encore des petites émotions et j'aime beaucoup t'entendre. Et il y a quand même un aspect, ça a l'air tellement simple quand tu le racontes, même si tu évoques la préparation et la fatigue, mais j'ai un petit trou de mémoire sur combien de temps tu as mis pour les faire tous. Mais comment est-ce que comment est-ce que tu te sens à la fin, quoi? Ça doit être épuisant. Moi, je sais que une ascension comme ça, des fois, je mets presque des semaines à m'en remettre. Comment est-ce que toi tu fais pour récupérer, et comment est-ce que tu gères un petit peu cette fatigue là?
Alors, c'est vrai qu'il y a des périodes où on enchaînait énormément de sommets, et que quand on rentrait, quand on rentre après avoir fait une dizaine de jours en altitude avec, comme je disais, plus de 10 heures de marche, on pense qu'il y a deux choses, hein, manger et dormir, se doucher, manger et dormir. On revient vraiment aux basiques. C'est qu'est-ce que je veux là? Je veux juste manger, je veux juste dormir. c'est assez étonnant. Mais oui, le corps est physiquement entamé. On dort pas toujours très bien en refuge, ou comme je l'ai dit, des fois en été, il faut se lever à 1h du matin pour profiter du regel, pour pouvoir marcher sur une neige qui soit suffisamment dure pour nous porter et avancer correctement. Et donc, à un moment, en fait, voilà, on est tout simplement fatigué. Après, il y a eu des grandes périodes où ce projet, il s'est étalé donc sur un peu plus d'un an. Je m'étais dit, ouais, je me donne un an pour le faire. Et il y a eu des petits événements qui ont... Je me suis gelé les orteils sur un sommet par vent. Il y avait vraiment un vent glacial. Il faisait moins 20 degrés. Je commençais à sentir que j'étais très fatiguée. Mais j'avais une de mes meilleures amies qui était très motivée pour faire le sommet. Il y avait le caméraman qui était là. J'ai pas voulu ou su dire non, pas par pression, mais plus par gentillesse. Et au final, il y a l'accident qui arrive ou le petit pépin physique qui arrive. Donc, ça m'a arrêtée pendant quasiment 7 semaines. Ouais. Le temps de récupérer de ses gelures et de pouvoir retourner en altitude et au froid. Et puis après, il y avait aussi des périodes où il faisait mauvais, et surtout, je me sentais un peu responsable de toutes les amies et tous les amis de cordée qui m'accompagnaient, et je voulais pas prendre de risques. Il y a des fois, on aurait pu enchaîner plus de sommets les uns à la suite des autres. en jouant un peu avec une météo tempétueuse ou une météo orageuse. Et c'est vrai que pour moi, c'était hors de question de jouer trop avec ça. Et je prenais quand même de la marge dans mes journées. J'avais un routeur météo qui me disait il faut que vous soyez à 10h au sommet parce que derrière la tempête qui arrive, ou alors à 13h30 l'orage il va éclater sur Zinal. Faut vraiment que vous soyez déjà très loin. Et donc j'ai pris vraiment des précautions, ce qui fait que j'étais pas dans une démarche de performance et d'aller vite, mais j'étais quand même plutôt dans une démarche de faire un beau projet, de vivre une belle aventure à la maison, mais en essayant d'être le plus sécurisé possible. Donc il y a quand même des périodes où on était en bas parce que c'était trop orageux, où on avait le temps de se reposer. D'accord, mais ouais. Pour reprendre ce que tu disais un peu, c'est vrai que quand on a fait l'ascension, par exemple, de l'arête du Brouillard, qui est une très longue arête, probablement la plus longue en face sud du Mont Blanc, donc qui sort au sommet du Mont Blanc à 4800 mètres, où on porte son matériel de bivouac, où on est sur du terrain technique, quand on se fait deux journées de 18 heures, ben c'est clair, le lendemain et les jours qui suivent, on est là. Je veux juste manger et juste dormir et voir Christy qui va me masser les jambes pour mieux récupérer. Et c'est normal. Ouais. Mais ça fait partie des choses.
Ok, ouais, bah c'est marrant parce que tu vois moi je discute pas mal avec des préparateurs physiques, où je m'intéresse beaucoup à l'univers un petit peu du sport, et tu vois souvent on parle, il y a des boissons pour mieux récupérer, des compléments alimentaires, des massages, plein de choses et tout, et puis finalement en fait ce qu'on oublie de dire, c'est la récupération, c'est avant tout c'est le sommeil, et c'est 80% de la récupération, je pense que ça passe par là, donc je comprends que tu as eu besoin de dormir, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a un souvenir qui t'a marqué peut-être un petit peu plus que les autres? Alors j'imagine que ça doit être une année tellement forte en émotions, tellement riche, tellement dense. En plus, on sent que la composante humaine de l'amitié est très importante pour toi. D'ailleurs, on le voit un peu dans le film que tu as produit. Est-ce qu'il y a un souvenir peut-être plusieurs d'ailleurs, que tu aurais envie de partager aux auditeurs, et des moments qui t'ont marqué un petit peu plus que les autres?
Oui, bah bien sûr. Effectivement, sur toutes ces montagnes, sur toutes ces ascensions des 4000 mètres des Alpes, chaque sommet avait sa saveur et sa petite histoire propre. Mais je pense que le dernier sommet a été quand même le plus fort parce qu'il avait été dur à réussir, parce que il marquait la fin d'un projet long d'un peu plus d'une année j'arrivais à terminer ce projet, je me retrouvais au sommet du Mont Blanc parce que c'était la voie que j'avais choisie, elle nous amenait au sommet du Mont Blanc et voilà, on était là sur ce beau dôme à 16h le soir avec un ami suisse qui s'appelle Roger Chaly, qui est aussi guide, et là il n'y avait pas un brin d'air, on avait fait le choix de prendre moins de nourriture et moins de matériel de bivouac pour pouvoir prendre nos voiles de parapente. Et on se retrouvait là avec juste le petit vent parfait qui disait que ben voilà, on allait pouvoir décoller du sommet du Mont Blanc après quasiment 38 heures je pense d'ascension et quelques heures de sommeil au milieu, et c'était vraiment magique, c'était vraiment quelque chose d'incroyable et de très fort, et pouvoir décoller du Mont Blanc en plus comme bonus ou comme cerise sur le gâteau pour poser à Chamonix 45 minutes plus tard, c'était fou, c'était vraiment magique. Donc c'est vrai que le dernier sommet, l'ascension de l'intégrale de Peutray, avec l'ascension de la Blanche de Peutray, le Grand Pilier d'Angle, qui étaient les deux sommets qui me manquaient, et finir sur l'arête finale avec le Mont Blanc de Courmayeur et le Mont Blanc, et se retrouver seul en septembre sur ce sommet qui est quand même beaucoup fréquenté, avec nos deux petites voiles de parapente et les traits un peu creusés, la fatigue, mais tellement de joie, tellement de bonheur, c'est quelque chose de très fort.
Ouais, bah ouais, j'imagine. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait eu des moments très difficiles, qu'il y a même eu des étapes où tu as vraiment eu peur. Notamment, j'ai entendu parler d'une chute de pierre. Je sais plus sur. Il me semble que c'était. Tu devais être aux alentours du 70e ou quelque chose comme ça. Est-ce que je me trompe?
Oui, c'est ça. Alors, je sais plus c'était quel sommet, le numéro, enfin, si c'était le 70e ou 72e, quoi. Mais effectivement, ouais. En fait, on s'est fait vraiment une grosse frayeur où là, c'est des moments où on se dit, je voudrais être partout dans le monde, mais pas ici, quoi. Et c'était sur l'intégrale du brouillard en face sud du Mont Blanc, une voie un peu moins dure que l'intégrale de Petrée, mais beaucoup plus longue, et avec vraiment énormément de pierres instables. Et en fait, on était parti avec deux cordées. Il y avait une cordée d'Italien qui nous avait demandé s'il pouvait venir avec nous et qui était resté derrière nous toute la première journée. Et là, je sais pas si on s'est mal compris ou s'ils ont fait exprès, ils sont partis avant nous, ils ont mis le réveil avant nous au bivouac, ils sont partis avant nous, donc ils se trouvaient au-dessus de nous. Et il y en avait un qui était pas du tout à l'aise, qui était extrêmement en stress et qui prenait des blocs sans faire attention. Quand on est sur du terrain comme ça, on va dire entre guillemets du rocher pourri, désolé pour le mot, mais c'est le mot juste, on fait attention à quel type de rocher on va, sur quel type de rocher on va mettre la main, sur où on met les pieds. On essaie d'être un peu comme un chat. On sait qu'il y a l'autre qui est en dessous de nous, qu'il faut pas sectionner la corde, qu'il faut pas lui envoyer des rochers dessus. Donc voilà, il y a une certaine gestion quand même dans du terrain délicat de montagne, du terrain chamois un peu délicat qui est pas un beau rocher compact, dur, sur lequel on grimpe des choses plus dures, mais qui est plus un terrain chamois. Et là, en l'occurrence, ils nous ont fait partir. Il y a une première série de pierres qui sont parties et ça en a déclenché une quantité d'autres. Avec certains blocs qui étaient gros comme des fourmicrondes ou des imprimantes. Wow. Et vraiment, j'ai vu passer un bloc énorme juste à côté de mon épaule. Et là, ça a été vraiment la terreur, quoi. J'étais avec un ami australien qui vit à Chamonix, qui s'appelle Chris. On s'est recroquevillé le plus qu'on pouvait en essayant de mettre notre casque sur la nuque, en essayant de rentrer les mains, de rentrer les pieds pour pas prendre une pierre sur un pied, parce que là ça vous cassait les os en mille morceaux. Et miraculeusement, il y a aucune pierre qui nous a touché, mais je sais même pas comment c'est possible. On était sous une mitraillette, en fait. Et là le bruit s'est arrêté. Déjà, ça doit pas durer bien plus d'une minute, on a l'impression que ça dure 10 minutes. Les bruits sont arrêtés, j'ai levé la tête, j'ai vu que Chris il bougeait tranquillement, je me suis dit bon, ça va, et voilà. Mais ça a été un moment terrifiant, ça fait partie de ces moments en montagne qu'on n'a pas envie de revivre, en fait. On sait qu'ils peuvent arriver, mais ça fait partie de ces moments terrifiants où derrière on peut en rêver pendant 2-3 soirs, et c'est des moments qui sont vraiment désagréables et qui nous rappellent que bon, bah la montagne elle est magique, mais elle a aussi son côté dangereux, et voilà, il faut
rester humble avec la nature.
Ça, il faut toujours rester humble. La montagne, c'est toujours plus forte que n'importe quel alpiniste. Parfois il faut avoir un peu de chance quand même, ou en tout cas pas de malchance.
Mais exactement, ouais. Et tu vois, on sent vraiment que ça a été une année extrêmement dense, extrêmement riche. Comment tu te sens quand ça s'arrête? Parce que tu vois, tu dois avoir une année avec un objectif. Alors même si tu prends ton temps, tu le fais vraiment. On sent qu'il y avait vraiment une notion de passion et de plaisir dans ton histoire. Mais comment est-ce qu'on revient un peu sur terre? Alors bon, tu me diras que t'as pas décollé vraiment à propre mot, ou que t'as pas pris la mer. Mais comment est-ce qu'on revient sur terre? Comment est-ce qu'on revient un peu à une vie normale, si tant est de dire que tu as une vie normale?
Oui, alors effectivement, quand on part sur un gros projet comme ça, ben on est déjà extrêmement concentré là-dessus. On n'a plus notre petit monde se réduit un peu aux montagnes, à la météo, aux compagnons de cordée, puis à l'équipe vidéo qui documentait ça, parce que ce projet, c'était mon projet, j'avais envie de le réaliser. J'en ai parlé à mon sponsor principal, qui est Salomon, qui m'ont dit, mais c'est génial, on va t'accompagner, ta carte blanche, tu le fais comme tu veux, mais on va t'accompagner, on va le documenter. Donc il faut qu'on voit comment on peut mettre ça en place. Donc j'avais aussi une équipe vidéo qui était parfois avec moi, ou en tout cas que je tenais au courant régulièrement. Il y avait une vingtaine de personnes que je tenais au courant régulièrement de où on était, de ce qu'on faisait. Donc voilà, c'était un beau projet humain avec j'étais un peu chef d'orchestre d'un grand groupe. C'était un beau projet humain. Et puis là, faut voir que tous les papiers, tous les trucs un peu pénibles de la vie, tous les emails, moi j'avais un
message. Ouais, c'est à toi de le gérer.
Enfin, oui, mais en fait, je le gérais pas parce que j'avais mis un auto replay sur mon, un message automatique qui disait que j'étais pas joignable et que voilà, donc j'avais pas toutes ces contraintes de la vie de tous les jours parce que au final, ça avait aucune importance les emails qui arrivaient pendant cette période-là, c'était pas très grave. Tant pis, j'allais pas y répondre et ça avait pas d'importance et à part des papiers très importants, en fait, on est complètement la tête, on est dans la montagne et on vit dans la montagne et on redescend pour refaire le plein d'énergie, de bonne nourriture et de sommeil, mais on part quand même assez vite en montagne. Et donc quand tout ça s'arrête, effectivement, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un peu, alors pas une descente, mais j'avais déjà vécu ces phénomènes avec les compétitions. J'avais déjà observé assez rapidement qu'après une compétition et notamment après une victoire, on a un gros on a une grosse montée de bonne énergie, d'enthousiasme, d'élan qui est là. Ouais. Et puis 2-3 jours après, ça commence à redescendre. Et je m'étais souvent dit, il faut vraiment se méfier de ces phénomènes et trouver autre chose qui me tienne. Et donc, j'avais anticipé la fin de ce projet en me disant, mais il faut que j'ai un autre projet sur un autre plan qui soit là tout de suite derrière pour pas avoir la redescente, mais pour profiter de cette énergie qui est porteuse pour repartir sur un autre projet, mais pas un autre projet de montagne, pas un projet physique, pas un projet où je vais peut-être m'entamer physiquement, mais sur un autre registre. Et donc, le fait d'avoir un peu anticipé ça, ça m'a permis de bien d'apprécier pleinement la fin des 4000 et en même temps de surfer un peu sur cette vague de bonne énergie, mais tout en sachant que l'année suivante il fallait pas que je m'embarque sur quelque chose de trop physique et de trop long, mais qu'il fallait que peut-être j'ai une année de transition, de réflexion, parce que pour moi je préfère faire un beau projet de temps en temps qui a vraiment du sens plutôt que plein de projets un peu moyens, on va dire, et ces beaux projets il demande de l'énergie mentale pour être construit, pour être imaginé, pour être ressenti. Et des fois, ça peut demander quelques mois pour se dire c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça que j'ai envie pour l'année prochaine. Donc voilà, l'année suivante, j'ai eu besoin de me donner cette année de transition et de réflexion pour pouvoir imaginer c'est quoi la suite.
Ok. Et du coup, comment est-ce que tu as rebondi? Est-ce que tu te relances dans un projet actuellement?
Oui. Alors, là, du coup, la période est un petit peu spéciale vu que tous les projets prévus sont décalés ou vont être décalés d'une année, en tout cas, parce que certaines choses qui peuvent se faire en juin vont pas pouvoir se faire en septembre, par exemple. Mais ça a aucune importance parce que la montagne va pas bouger, la montagne sera toujours là. Et ce que j'avais envie de faire cette année, s'il faut le faire l'année prochaine, je le ferai l'année prochaine. Et peut-être que là, au contraire, il faut se dire, ok, comment est-ce que je peux encore je pense que on vit c'est comme un petit séisme, hein, ce qui est en train de se passer, voire un gros séisme. Et je pense que c'est un très bon moment pour se poser les bonnes questions et se dire comment est-ce qu'on peut évoluer dans ce monde, comment est-ce qu'on peut le faire évoluer et comment est-ce que nous on peut évoluer et comment est-ce que je peux changer ma pratique et amener aussi les personnes autour de moi à changer un peu certaines choses pour qu'on vive mieux, qu'on soit sur une planète où finalement qui soit plus saine et plus durable et plus vivable et voilà, et je me dis peut-être que cette année c'est une bonne année pour mettre en place des choses que j'aurais pas pris le temps de mettre en place et pour repartir sur d'autres fondations. Notre système de comment on fonctionne, notre système de déplacement, comment est-ce qu'on se déplace, comment est-ce que si on part en expédition, comment est-ce qu'on vit aussi la relation avec les populations locales, est-ce qu'on peut pas faire différemment. Du coup, j'ai acheté 5 poules et je suis en train de mettre en route un potager alors que j'aurais pas pris le temps de le faire, sachant qu'en été je suis tout le temps en montagne de 4h du matin à 18h le soir, mais voilà, c'est des choses que je me dis autant le faire et voir comment ça marche. Est-ce que j'arrive à être à peu près autonome sur certains mois de l'année avec des choses. Est-ce que, enfin, il y a pas mal de réflexions que tout le monde peut avoir à son niveau et comment est-ce qu'on peut tous évoluer et apprendre de la situation actuelle.
Ben écoute, c'est très, enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que il faut aussi voir la situation actuelle comme une opportunité pour nous de se recentrer et de penser un petit peu à autre chose que notre train-train quotidien et d'essayer de profiter un peu des coupures, peut-être de la coupure. Enfin, moi, j'appelle ça. Enfin, je pense que effectivement, c'est un gros séisme et que ça nous coupe un petit peu de la frénésie dans laquelle on était. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut le voir comme une période un petit peu de méditation et de préparation mentale, peut-être pour la suite. Et d'ailleurs, bon, j'ai dit le mot préparation mentale. C'est pas forcément le bon terme, mais je voulais juste rebondir. Là-dessus, avant un peu de clôturer, j'ai vu que c'était un sujet qui t'avait beaucoup plu et que t'avais étudié la psychologie notamment. Est-ce que c'est venu d'une réflexion personnelle? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu en as retenu? Quels ont été tes grands apprentissages? Si ça peut se résumer en quelques phrases, je sais que c'est une question compliquée.
Oui, alors l'aspect mental dans la performance, il m'a toujours extrêmement intéressé parce que très vite, moi, personnellement, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément la plus forte physiquement, mais qu'en tout cas à chaque rendez-vous international, je répondais présente et j'étais capable de mettre en place les choses qui m'amenaient à soit à monter sur le podium, soit à gagner. Et après le bac, je savais pas exactement ce que j'avais envie de faire au niveau des études, et pour moi c'était quand même important de poursuivre des études à côté du sport qui me prenait déjà énormément de temps. Et j'avais vu une conseillère d'orientation qui m'avait dit: ah, mais si tu veux faire la préparation mentale, il faut que tu fasses la fac de psychologie. Je pense qu'elle aurait dû m'orienter en fac de sport, mais c'est pas grave, parce que le champ de la psychologie est un champ qui est hyper large et hyper riche. J'adore la psychologie sociale, par exemple. Je trouve qu'il y a des expériences et des découvertes qui sont vraiment passionnantes. Et donc, j'ai fait mon cursus plutôt en psychologie, mais qui était hyper riche, hyper intéressant. Et j'ai eu la chance de faire mon stage de fin d'études à l'INSEP, à Paris, dans l'unité d'aide à la performance, avec une personne extrêmement riche, intéressante et performante elle-même dans son domaine, qui s'appelle Gilbert Avanzini. Et j'ai vraiment énormément appris à son contact, j'ai vraiment énormément appris à ses côtés, et ça a été aussi quelque chose de très intéressant, de très riche et de très formateur. J'ai développé un tout petit peu cette activité, mais en fait, en étant moi-même toujours très active dans mon sport, dans l'escalade, dans la montagne, j'ai pas développé cette activité avec un grand nombre de personnes, parce que encore une fois, je préfère bien faire les choses, les faire correctement, et plutôt que de les faire à moitié en étant à moitié dispo.
Ouais, puis pratiquer sur soi, c'est déjà assez dense comme programme.
Oui, la compétition m'avait permis de comprendre plein de petites choses essentielles pour savoir gagner. Mais là, du coup, ça me permettait d'avoir quelque chose d'extérieur, d'avoir un autre regard. Bien qui sûr. Était hyper vraiment vraiment très intéressant. Et après ce sont des aspects qu'on utilise de toute façon dans la vie de tous les jours face à des situations qui nous mettent en défaut, ou des situations qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de connaître, et ça reste toujours intéressant. Mais l'aspect mental dans la performance, c'est vraiment quelque chose. Notre cerveau, il a une telle puissance, c'est fou ce qu'on peut faire. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, et ouais, à chaque fois, je suis fascinée par ce qu'on peut mettre en place mentalement qui nous fait aller plus loin, en fait.
Est-ce que tu as un petit exercice pour les auditeurs qui pourraient essayer tout de suite à la fin de cet épisode, un exercice simple, rapide, qui peut avoir un effet, je vais pas dire immédiat, parce que ça serait trop magique, ça serait trop simple, mais est-ce que tu as un petit exercice à nous partager?
ah bah là je suis mise en défaut là, non comme ça je vais pas arriver à trouver un petit exercice comme ça qui, mais par contre en fait j'encourage vraiment les auditrices et les auditeurs à se mettre dans des mini situations de hors de leur zone de confort et de voir comment elles arrivent à y répondre, de voir comment elles arrivent à y faire face, et elles vont apprendre sur elles-mêmes, et je pense que c'est le meilleur moyen de mettre en place les bonnes prises de décision, les bonnes actions et la bonne gestion entre guillemets de stress. C'est peut-être pas forcément le meilleur mot ici, mais d'une situation pas tout à fait confortable, d'apprendre à la gérer, voilà. Et si on sait pas bien y faire face, se dire comment aurait fait une autre personne. Des fois, ça aide de se dire tiens, comment est-ce que telle personne, mon compagnon par exemple ou ma compagne, elle aurait fait dans cette situation-là. Et ça nous donne des clés pour y répondre. Et je trouve que c'est un petit jeu qui est intéressant.
Eh ben écoute, c'est déjà un très très bon conseil, un très bon petit exercice de des fois se poser la question de se dire comment est-ce que un autre, quelqu'un qu'on côtoie ou quelqu'un qui nous inspire aurait fait, c'est déjà un super tips. Écoute, pour la fin, j'ai quelques questions qui sont des questions qui sont suggérées par les auditeurs. Il y en a quelques-unes, bah je te les ai envoyées. Est-ce que ça te dit de te prêter au jeu?
Oui, bien sûr, sans problème.
Ouais. La toute première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi?
Alors, ça m'a fait sourire quand j'ai lu cette question, parce que je me suis dit, mais en fait, toutes les journées sont des bonnes journées. Mais je pense que déjà juste se réveiller, une journée qui commence en se réveillant à côté de mon compagnon, c'est déjà une bonne journée. Et après, si on la passe en montagne ou si on la passe en volant en parapente, quoi qu'on fasse derrière, c'est déjà une bonne journée. Et après, ça en fait une excellente journée. Mais je pense que déjà se sentir bien avec des racines, des fondations. Et de l'amour autour de soi, c'est déjà une bonne journée qui commence.
Bon, bah, très belle parole, en tout cas, c'est très très bien dit. Est-ce que tu as un échec qui t'a appris plus que les autres?
Alors, encore une fois, le mot échec, pour moi, en fait, même je dirais que l'échec, c'est quand tu rentres pas de montagne. Mais par contre, oui, il y a eu des moments difficiles où on apprend, et je pense que faire demi-tour, c'est là où on apprend le plus, parce que on n'est jamais seul à prendre la décision de faire demi-tour quand la situation devient délicate, par exemple en montagne, et se dire eh ben là il faut faire demi-tour. Peut-être que le compagnon de cordée ou la compagne de cordée va pas être d'accord, donc il va falloir argumenter. On va peut-être se dire mince, est-ce que c'est moi qui suis trop heureuse, est-ce que je fais une mauvaise analyse de la situation. Et je trouve que toutes ces situations de décider de faire demi-tour, de rentrer, sont des moments où on apprend énormément, et au final c'est pas vraiment des échecs, mais c'est des moments qui vont énormément apporté pour la suite, et renforcer ce sentiment que il vaut mieux savoir faire demi-tour que ne pas rentrer du tout.
Ok, bah écoute, c'est très bien dit. Je suis tout à fait d'accord avec toi, moi qui ai pratiqué pas mal le triathlon longue distance. Alors c'était pas forcément faire demi-tour, mais c'était juste me mettre sur le bas-côté et m'arrêter. Mmh. Voilà, exactement. C'est le moment aussi, je pense, où je me suis le plus remis en question derrière et où j'ai le plus appris. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu as une astuce pour libérer la pression? Comment est-ce que tu oublies un peu, et comment est-ce que tu t'échappes des fois du monde un peu qui nous entoure?
Alors, il y a plein de façons de faire. Déjà, en fait, arriver à être souvent, quand on sent qu'il y a de la pression autour qui est un peu toxique, ou qu'il y a un truc qui va pas, c'est se recentrer, c'est se mettre dans sa bulle, c'est se recentrer. Et c'est, pour moi, c'est imaginer ce qui m'anime, ce qui m'apporte de l'énergie, et pourquoi je fais tout ça en fait. Et déjà de me dire, mais pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi est-ce que je fais tout ça, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'en arrive avec cette pression autour de moi, ça me permet de me dire, ah ok, en fait l'essentiel dans ma vie c'est ça. Et le fait de me dire l'essentiel dans ma vie c'est ça qui est important, ça me permet de faire retomber autour toutes les choses qui vont être un peu polluantes entre guillemets.
Ok, génial. Est-ce que plus jeune, tu avais une idole sportive?
Oui, évidemment, j'en ai eu plein. Quand j'avais 10 ans, j'ai commencé à lire tous les livres de montagne et j'ai été baignée par les Bonatti, les Deux Maisons, les Rébuffa, Messner et Abler aussi, qui ont été les premiers qui ont été les premiers à monter au sommet de l'Everest sans oxygène et qui ont fait mentir tous les médecins qui disaient que physiologiquement on pouvait pas monter sans oxygène à plus de 8000 mètres et redescendre vivant, et eux ils ont réussi à faire mentir ses prévisions et à prouver au reste du monde que si c'était possible, que les limites humaines n'étaient pas là où on croyait qu'elles étaient. Donc oui, je pense que voilà, il y a eu plein de personnes comme ça. Mais après, il y a eu aussi d'autres personnes comme une grimpeuse américaine, Lynn Hill, qui a réussi à faire la voie du nôtre sur le Big Wall d'El Cap. J'espère que c'est pas des termes trop techniques pour les auditeurs, mais voilà, elle a été la première à libérer cette loi avant n'importe quel autre homme, et je trouve que voilà, des femmes qui font des performances aussi exceptionnelles et avant n'importe quel autre homme, c'est à mettre en valeur, parce que c'est des choses quand même incroyables. Toutes les grandes performances sont quand même plutôt faites par vous. Vous êtes plus fort que nous d'une façon générale, et là, l'escalade justement, elle réduit ces différences, et je trouve ça vraiment fou et magique, et Lynn Hill a été et est toujours une personne qui m'inspire beaucoup. Après, il y en a beaucoup d'autres. Je suis extrêmement admirative de la carrière et de la personne qu'est Martin Fourcade, par exemple. Pas du tout dans mon milieu, mais je trouve que c'est un de nos très très beaux athlètes français. Et puis de cœur, parce que c'est aussi un ami. Je trouve que Kylian Jornet est vraiment quelqu'un de toujours impressionnant et qui sait toujours quelque part se renouveler aussi, et je trouve ça vraiment vraiment incroyable.
Ouais, un vrai extraterrien, ça c'est sûr, ouais. C'est sûr et certain.
Oui.
Mais tu l'as mentionné, je me permets de rebondir là-dessus, parce que je savais pas trop encore jusqu'à récemment, mais c'est vrai que j'ai vu que dans l'escalade et l'alpinisme, c'était un des rares sports où finalement l'écart entre les hommes et les femmes était pas si flagrant, et qu'il y avait de plus en plus de records qui étaient faits aussi par des femmes, et que c'était peut-être pour l'instant, si plus de records sont faits par des hommes, c'est peut-être juste à cause de peut-être de croyances, ou même juste de rôle modèle. Donc dis-moi si je me trompe, mais en tout cas j'ai vraiment l'impression que la relation, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai entendu plusieurs fois en tout cas que dans l'escalade et l'alpinisme, il y avait de moins en moins de questions de genre, et que c'était plutôt une question de croyance, quoi. Mais je sais pas ce que t'en penses, toi.
Oui, disons que l'escalade est un sport qui est, par rapport à presque tous les autres sports, diminuent les différences de niveau entre les hommes et les femmes. La première compétition internationale à laquelle j'ai assisté, justement, il y avait Lynn Hill qui était en super finale dans la voie des hommes, et qui aurait terminé troisième au général, donc avec deux homologues masculins devant elle, et elle aurait été la troisième personne, ce qui est hallucinant. Il y a une Lynn Sewon en descente qui peut être au même niveau que certains hommes en ski de descente, mais après on voit quand même pas des records de femmes sur des distances ou sur des qui se rapprochent si près de ça des performances masculines. Et en escalade, en fait, on le voit. En alpinisme, c'est un petit peu différent, parce que quand on a un gabarit de 50 kilos et qu'on porte un sac de 30 kilos, on est quand même moins rapide que notre homologue qui fait 70 kilos et qui porte 30 kilos aussi. mais après, comme c'est des sports techniques, on peut compenser par de la technique, mais on sera quand même toujours d'une façon générale un peu moins rapide, entre guillemets, globalement. Et de toute façon, si le record du marathon était détenu par une femme, ou le record du 100 mètres était détenu par une femme, on le saurait. C'est pas le cas, et il y a aucun problème avec ça. Je trouve que les femmes ont de plus en plus une belle reconnaissance de leurs homologues masculins dans le milieu de la montagne. C'est pas toujours facile non plus, parce que ça reste un milieu d'hommes, on est aussi là parce que voilà, on a été soutenus par des hommes qui nous ont fait confiance et qui nous ont appris des choses et qui nous ont permis d'arriver au niveau qu'on a. Donc voilà, c'est important de le souligner aussi.
Ok, d'accord. Très bien. Merci pour cette petite précision. Si tu pouvais te transformer en une petite souris et et revenir la veille de tes premiers championnats de France quand tu allais grimper pour la première fois durant ces championnats et juste avant d'obtenir ce podium et que tu pouvais être une petite souris et te glisser un conseil dans le creux de l'oreille, qu'est-ce que tu te dirais?
Je me dirais vraiment crois en toi.
Ok, génial. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui t'a inspiré ou que t'as envie de citer
plus... En fait, il y a beaucoup. Moi, j'aime beaucoup lire plus que regarder des films au final, mais je me suis assez naturellement en fait le premier titre qui m'est venu à l'esprit, qui est pas un grand ouvrage ou quoi, mais c'est Les Conquérants de l'inutile parce que le titre est génial. Et que c'est un livre que j'ai lu enfant et qui m'a donné vraiment envie d'aller en montagne. Et je trouve que, voilà, Les Conquérants de l'inutile, c'est exactement ça, ce qu'on fait. Et ça a été un peu un livre déclic pour moi, pour avoir envie de faire pareil quand j'étais petite.
Eh ben, écoute, je le connaissais pas du tout. Donc, je vais l'ajouter tout de suite à ma booklist, dès maintenant pour pouvoir rattraper ce retard. Comme tu sais, la dernière question un peu pour clôturer l'interview, c'est de savoir quel est le prochain ou les prochains, aventuriers et aventurières que tu me recommandes d'aller interviewer. À qui tu passerais le micro?
Alors, je passerais vraiment très volontiers le micro à Lionel Daudet. Qui est vraiment un alpiniste, un amoureux de la montagne et qui est vraiment une personne à part en fait dans le milieu. C'est presque un animal en fait dans la montagne et je pense que Lionel aurait beaucoup de choses très très intéressantes à communiquer.
Ok, eh ben écoute, je note son nom et puis on pourra en discuter après rapidement en ligne, mais avec grand plaisir. Écoute, je le connais pas du tout, donc
ce sera l'occasion de le découvrir.
Eh ben écoute, ouais, exactement, c'est parfait. Moi, j'ai passé un merveilleux moment, donc merci mille fois pour cette heure et demie passée ensemble. C'était vraiment extrêmement riche, extrêmement dense. On a parlé de plein de sujets. J'ai vraiment passé un excellent moment. Merci pour tout, parce que tu es aussi agréable au téléphone que dans les petites vidéos que j'ai pu voir de toi ou dans les petites interviews que j'ai pu voir de toi par-ci par-là. Voilà, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite?
On change rien, on continue en mieux.
Et ben, écoute, voilà, c'est tout le mal que je te souhaite, vraiment.
Merci Barthélémy. Bah, c'était aussi un très bon moment d'échange, très agréable. Donc voilà, j'espère que ça plaira à tout le monde et c'est tout.
Voilà. Bah écoute, j'en suis certain, quand ça me plaît, ça plaît aussi aux auditeurs. Merci à ceux qui sont encore ici et je sais que vous êtes très nombreux à écouter jusqu'au bout. Merci beaucoup Liv et écoute, bah à très vite comme on dit.
Voilà, très bien. Merci Barthélémy.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !